Et on se retrouve donc à Celle-Neuve sur Radio Clapas avec l'association Wakadi où on fait, on vous l'a expliqué, un début d'émission. Si vous avez raté le début d'émission, on vous le répète, on fait en fait un direct qui dure 3 heures dans le cadre de la manifestation Quartier Libre. On tenait quand même à remercier, si vous avez entendu le jingle juste avant la chanson, il y avait un petit jingle qui était un petit montage de Sarkozy, tout ça. On tenait à remercier les deux Manu, en fait, c'est deux amis proches de l'association qui font des petits montages comme ça, qui sont assez intéressants, voilà, et on les diffuse, c'est assez sympa, quoi. On se retrouve donc, on va presque finir cette émission sur le quartier de Celle-Neuve avec Jean Terrain qu'on a déjà entendu longuement tout à l'heure sur la question du quartier. On lui a coupé sa sieste, hein. Ça va, Jean, quand même?
Oui, merci.
Bon,
Elle fut brève,
mais tu vas voir, ça ne va pas durer longtemps. Mais quand même, on avait envie de parler d'un sujet important. C'était la question des services en général et des commerces et des services publics.
Alors attention, parce que quand on parle de commerce et de services publics, il s'agit pour nous de faire une distinction entre le commerce où on va acheter un service ou acheter un bien et le service public qui, non seulement on peut proposer un bien ou un service gratuit, mais qui est aussi représentatif de la présence de l'État dans un quartier. Et on sait notamment qu'à Celle-Neuve, une personne nous en a parlé dans le reportage tout à l'heure, pour ceux qui sont là depuis le début de l'émission, d'ailleurs on les remercie d'être là depuis maintenant presque 2 heures, il y a une personne qui nous disait ce qui est bien dans ce quartier, c'est qu'il y a la boulangerie tout près, il y a 5 minutes pour aller acheter du pain. Et justement, dans Celle-Neuve, on sent qu'il y a quand même une proximité de commerce. Donc on est allé rencontrer un petit peu les commerçants, et notamment un, c'est-à-dire le pharmacien, qui nous a parlé un petit peu de qu'est-ce que c'était être pharmacien à Celle-Neuve.
Bonjour, on est donc dans la pharmacie des Oliviers, c'est ça?
Tout à fait, pharmacie de l'Olivier, il y en a qu'un, mais...
Alors on est venu vous voir pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est la réalité du métier de pharmacien dans Celle-Neuve.
Alors la réalité, c'est pharmacien comme partout, c'est un acteur de santé de proximité, et je pense ici beaucoup plus qu'ailleurs. On connaît les gens, il y a d'un côté l'ambiance village, mais il y a aussi beaucoup de, comment dire, il faut être très proche des gens. Je pense que le pharmacien est un maillon essentiel dans ce quartier, entre le médecin, le malade, les infirmières et tout le système de santé. Voilà.
Et alors la spécificité du quartier de Celle-Neuve, comment vous le décririez?
C'est difficile de comparer à d'autres puisque j'ai pas beaucoup bossé dans d'autres, mais ça demande beaucoup d'investissement. Il y a pas mal de livraisons à faire, dépanner les gens, expliquer les choses. Je pense que surtout une des spécificités, c'est surtout ça, bien expliquer les choses et faire marcher la chaîne. Donc vraiment ce rôle d'intermédiaire, on appelle très souvent les médecins ou les infirmières, et on essaye d'expliquer aux gens de bien se soigner.
Expliquer, ça veut dire que à Celle-Neuve, il y a des gens qui parlent peu français, et ça fait partie des difficultés que vous pouvez.
Il y a le quartier à côté, il y a ça, il y a des gens, oui, où en France c'est assez compliqué la paperasserie, si j'ose dire. C'est quand même pas facile de suivre maintenant tout le système de tiers payant. Donc là aussi, on aide, on oriente, on oriente les gens à faire tout le nécessaire pour leur éviter de faire l'avance des frais, si possible.
Et par contre, donc là, on voit un petit peu les aspects positifs de votre positionnement dans Celle-Neuve. Il y a, je pense, des aspects négatifs. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Aspect négatif, oui, c'est... Des fois, il y a de l'ambiance. On a quelques spécimens dans le quartier, mais il y en a un peu dans tous les quartiers ou dans les villages. C'est vrai qu'on a passé une année difficile parce qu'on a été cambriolé 2 fois en 1 an, quasiment, avec la vitrine cassée et autres. Bon, je ne suis pas sûr que ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive au bureau de tabac ou dans d'autres quartiers en centre-ville, mais voilà, c'est vrai que cette année, on a un peu dérouillé.
Quel est le point positif que vous trouveriez dans ce quartier Celle-Neuve?
Moi, j'aime mon métier, déjà, c'est une bonne chose, mais par contre, c'est des gens fidèles et très attachants, plus peut-être qu'ailleurs, enfin, je ne sais pas. Moi, j'avoue que, moi, je suis content le soir quand j'ai aidé les gens, quoi. C'est ma première mission, c'est ça, c'est leur faire comprendre comment bien prendre les médicaments et faire que tout se passe bien. Et quand je fais ça, moi, je dors bien, donc je suis ravi de ce quartier. C'est vrai que je ne suis pas passionné personnellement par tout ce qui est parapharmacie, les crèmes de beauté, c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que bien expliquer comment marche un lecteur de glycémie ou différentes choses, ou faire des dosages, voilà. Ça, c'est ma passion, et quand je le fais bien, je suis content.
et dans l'autre sens, si vous avez une baguette magique, quelle serait la chose que vous aimeriez voir évoluer, changer dans ce quartier?
Dans le quartier, c'est difficile à dire, hein, pas grand-chose. Je sais qu'il y a des soucis dans quelques résidences du quartier. Les clients m'ont dit qu'il y a des pétitions qui tournent sur la propreté de certains locaux. Voilà. Où les gens balancent tout n'importe où, dans les cages d'escalier, dans les trucs. je sais que ça tape sur les nerfs de certains de mes clients qui viennent me le dire. Moi, c'est vrai que bon, j'ai la chance d'avoir des locaux en bon état, neufs, donc je ne vais pas me plaindre, mais c'est vrai qu'il y a, quelques bâtiments qui laissent un peu à désirer.
On dit, et ça va être notre dernière question, on dit souvent que Seineuve est un quartier mixte. Est-ce que vous trouvez que cette dénomination est justifiée ?
Oui, je pense que c'est un quartier mixte et en plus il a un avantage, c'est qu'on retrouve un peu cette ambiance village. De par sa structure et sa construction, ses petites rues, malgré le grand axe qui passe devant, ouais, il y a beaucoup cette ambiance village et ça je trouve que c'est bien. Pour la ville, c'est humain.
Voilà. Merci beaucoup.
Mais avec grand plaisir.
Alors, en écoutant ce pharmacien, on a l'impression quand même que travailler à Celle-Neuve, c'est pas pareil que travailler dans un autre quartier. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi ?
Au point de vue du travail, je crois pas. Enfin, ce qui, bon, il me semblerait effectivement que la population, on vient de l'expliquer, elle est mixte. Le problème que je vois, moi, plus en termes de commerce, c'est qu'il y a une réponse, effectivement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, en termes de commerce de proximité. Mais on peut se plaindre notamment de la perte d'un certain nombre de commerces sur le coin et notamment remplacés la plupart du temps par des banques parce qu'en ce moment il n'y a qu'eux à qui on prête de l'argent et que les différents commerces qui se sont implantés ou qui ont fermé ont par hasard ont tous été remplacés par des banques.
Mais il y a des épargnants à Celle-Neuve, c'est connu pour ça, c'est...
Des épargnants à Celle-Neuve, il y en a comme partout. Mais disons que, je ne sais pas si vous voyez sur l'ensemble de la ville, mais dès qu'un établissement ferme, je suis passé hier encore par hasard, enfin par hasard non, aux Arceaux, la place des Arceaux, il y avait 3 cafés avant, maintenant il y a 3 banques. Bon, ce n'est pas spécifique quartier Celle-Neuve. Alors, ce qu'on peut à mon avis se plaindre, même si cette proximité existe, de par le fait village, puisqu'en fait, la rue Marcelin-Albert, j'en profite quand même pour placer le nom de cette rue, c'est pas au languedocien que vous êtes qu'il faut apprendre ou rappeler peut-être qui était Marcelin-Albert.
Je crois que tu peux nous rappeler qui était Marcelin-Albert.
Tu peux en parler, Kevin ?
Non, je ne peux pas, non.
Tu ne peux pas en parler.
Et je ne le connais même pas. En même temps, je ne suis pas languedocien, donc je me sens moins visé.
Non, Marcelin Albert était un leader viticole. Et si donc la révolution de 1907, où plus de 200 000 vignerons sont descendus dans la rue et sur la place de la Comédie pour revendiquer un peu une évolution de leur situation, le leader de ces viticulteurs était Marcelin Albert. Et c'est pour ça qu'on a donné le nom de cette rue à Marcelin Albert, parce que c'est le quartier viticole de Montpellier.
Et il y a un caviste maintenant à Celle-Neuve ?
Oui, alors il y a non seulement un caviste, mais il y a surtout une cave coopérative. Ah. Et là aussi, on arrive justement avant l'arrivée de l'architecte. Et cette cave coopérative qui a fait fonctionner le village pendant un certain nombre d'années, maintenant a été rachetée par la cave coopérative de Saint-Georges-d'Orque, et on va y construire d'ici peu de temps un superbe lotissement, enfin superbe, je l'espère, lotissement monté par un promoteur, et on va démolir la cave coopérative, tout en gardant, je tiens à rassurer les amateurs de bon vin, tout en gardant un caveau pour vendre, parce que ce vin maintenant, il n'y a plus de viticulteurs vraiment à Celle-Neuve, puisque la plupart des terres viticoles ont été transformées en habitations. Et c'est au sein de la cave coopérative qui se trouve en bordure de la voie rapide, qui est la cave coopérative de Saint-Georges-d'Orque, mais sur Celle-Neuve.
Alors là, on a commencé à parler des commerces. Il y a aussi, d'après ce qu'on a entendu, eu quelque temps un combat parce que vous alliez perdre la poste. Alors on a fait une petite interview, on est allé interroger une postière. Je vous propose de l'écouter dès maintenant et on en reparle après.
Bureau de C10 Malbosque. Je travaille sur une zone, une ZUP quoi. Je ne suis pas fonctionnaire, je suis contractuelle et je suis militante sud. Voilà.
Par rapport à la poste, il y a une grève mardi, mais ça fait un moment quand même qu'il y a une casse du service public postal là, dans les milieux ruraux, dans les quartiers. Ça a commencé quand ? C'est un peu quoi la logique de tout ça ?
Ben, la logique, elle est simple, c'est qu'on veut On veut rentabiliser tous ces services-là. C'est faire du fric sur notre dos, quoi, tout simplement. Un exemple, hein, on va prendre les années 2004. Il y avait 170 bureaux de plein exercice. C'est-à-dire que ce bureau-là faisait toutes les opérations. En 2008, il n'en reste plus que 79 bureaux. C'est quand même 91 bureaux qui sont passés à la trappe. Ces bureaux-là se sont transformés en guichet annexe. C'est-à-dire c'est un guichet annexe, c'est dépendant d'un bureau de plein exercice. Quand ils ne se sont pas retrouvés en agence postale ou en agence postale communale ou dans un point poste chez un commerçant.
Mais qu'est-ce que ça change d'avoir un bureau de poste dans une agence communale, par exemple ?
Les heures sont limitées et on est limité dans le cadre des opérations. On ne peut pas faire toutes les opérations qu'on fait à la poste. Voilà.
Donc c'est un recul encore ?
Ah, c'est un recul, hein, énorme recul. Hein.
Avoir un bureau de poste, par exemple, dans le quartier de La Payade, le quartier de Celle-Neuve, si c'était un service privé, ça changerait quoi, en fait ?
Ben, ça changerait tout simplement. Ça veut dire des dossiers difficiles, des dossiers qui ne rapportent rien. On n'a pas besoin de ces gens-là, tout simplement. Voilà, moi je vous parle en tant que factrice. Je suis factrice sur une zone sensible, Payade, et les gens sont attachés à avoir le même facteur qui passe tous les jours. Et à travers les réorganisations incessantes, puisqu'on subit pratiquement tous les deux ans de réorganisations, hein, on met des nouveaux outils à notre disposition, soi-disant pour nos conditions de travail, en fait c'est pour retirer du temps. Ce talent, forcément, il le retire parce qu'il est gratuit. Et moi, je conçois le métier de facteur comme un métier où je ne veux pas être qu'un distributeur de papier. On a un rôle social. La personne qui n'est pas dans un bon jour et qui a besoin de discuter 5 minutes, ce temps-là, demain, on n'aura plus le temps. Ce n'est pas rentable. Et nous devons être rentables. Et les soucis des gens et les petits services qu'on donne qui sont gratuits, tout ça, la Poste ne veut s'asseoir dessus.
En 1987, le gouvernement Chirac introduit par décret la concurrence dans certains secteurs des télécommunications. En 1990, le gouvernement Rocard fait voter la réforme des PTT. La Poste et France Télécom deviennent deux opérateurs autonomes de droit public. Des mouvements sociaux intempestifs obligeront le gouvernement Juppé à attendre 1996 pour transformer France Télécom en société anonyme. Puis le gouvernement Jospin, après avoir tergiversé, ouvrira le capital et placera le titre en bourse. Ses premières inhibitions dépassées, il fera même descendre la part de l'État à 54%. Enfin, le gouvernement Raffarin fera descendre cette même part au-dessous du seuil fatidique de 50%.
Qu'est-ce qui se passe en fait ?
En fait, c'est simple, c'est qu'on a eu cette nouvelle courant de l'été. C'est même pas notre propre patron qui nous l'a annoncé, hein, on l'a su par la presse. C'est l'ouverture au capital, à hauteur de 20%. Alors on nous dit que ce n'est pas une privatisation, mais quand on ouvre au capital, c'est une privatisation forcément. Il faut se rappeler ce qui s'est passé quand même au niveau de France Télécom. Hein. Maintenant, l'État a plus que 27%. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de fermetures de sites, des gens, du personnel pas remplacé. C'est plus de 26 000 suppressions de postes. C'est des conditions de travail atroces. C'est des gens qui vont bosser à 100 km de chez eux. C'est des suicides. Voilà la privatisation, ce que ça engendre.
Au niveau du personnel et au niveau des usagers ?
C'est-à-dire que sur un bureau qui ne sera pas rentable, c'est simple. On va commencer tout simplement à supprimer les heures d'ouverture. Et s'il n'est toujours pas rentable, on le fermera. On le fermera.
Ou alors on le donnera peut-être à la commune et c'est les impôts locaux qui le
paieront. Oui, comme ça on paiera deux fois notre. Hein, par le timbre et par nos impôts locaux aussi. Quoi. Voilà.
Et la mobilisation actuelle, on parle de liens usagers, partis politiques, syndicats autour d'un référendum sur la question de la Poste. Et c'est quoi un peu cette histoire-là de référendum ?
Nous, on a été matraqués par notre président en disant que les postiers devaient se prononcer. Je pense que ce n'est pas des postiers à se prononcer. Hein. La Poste ne nous appartient pas. C'est tout simplement... à la population, à nos élus, voilà.
Non, parce que c'est un service public, ça nous appartient tous, c'est le bien commun. Quoi.
Oui, Oui, et c'est pas au postier à se prononcer. Je voudrais rajouter juste un petit truc, il me semble important. On veut nous faire entendre des mots, c'est rentabilité, c'est dividende, actionnaire, suppression d'emploi, fialiser et sous-traiter. Tout ça, si demain on accepte donc la privatisation, c'est ces mots qu'on va entendre et ça va être des gros débats. Moi je veux entendre service public, moyen, qui nous donne les moyens pour faire notre travail correctement et usager. On parle d'usager. Pour moi les actionnaires, c'est tout simplement des créateurs de chômeurs.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité sociale.
Wakadi, ça veut dire on a quelque chose à dire. Mais justement, nous, on a quelque chose à dire.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité
sociale. Un pas de côté sur l'actualité sociale.
Alors, on sent que La Poste, ça a été un vrai combat à Celle-Neuve. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Jean?
Sans remonter trop loin, je précise quand même qu'il y a eu quatre lieux de poste différents à Celle-Neuve depuis les années 40. On a d'abord eu une petite poste qui était rue Marcelin-Albert, dont j'ai parlé tout à l'heure, puis une autre poste qui a été transférée, toujours aussi petite, avenue de Glodève, et une poste qui était installée sur le parking de Norma, qui a été réaménagée parce que les conditions de travail dans cette poste et les conditions d'accueil étaient lamentables. Maintenant, il y a une amélioration certaine. Donc nous avons effectivement, comme on vient de l'indiquer, été informés de la volonté de supprimer cette poste. Il y a eu un certain nombre de réactions du comité de quartier, des différents courriers au directeur de la poste, à la préfecture, à la mairie, au conseil général. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a au moins maintien de cette poste et dans des conditions qui sont sans doute nettement meilleures que celles qui étaient avant. Je ne dis pas que c'est vrai pour les salariés, je dis que c'est vrai au moins pour ceux qui vont dans cette poste.
Mais pourquoi c'est important finalement de maintenir cette poste? Est-ce que ce n'est pas un service qui pourrait être rendu par d'autres commerçants? Pourquoi c'est important que ce soit La Poste qui continue à assurer ce service-là?
Parce qu'il y a un professionnalisme évident chez les postiers qui n'existe pas chez un commerce local. Moi je ne suis déjà pas particulièrement favorable à ce que dans un petit village on supprime La Poste, mais quand on a un secteur comme j'évoquais tout à l'heure qui représente entre 7000 et 10000 habitants, il y a une nécessité évidente d'une poste et pas simplement d'un petit bureau comme ça. Et la plupart des prestations qui auraient pu être envisagées ailleurs sont inenvisageables sur le quartier. Je n'aurais tendance à dire que les gens... Il y avait une boîte aux lettres à un moment à côté du Diagonal. Cette boîte aux lettres, au moment de la construction de la fameuse banque dont j'ai parlé tout à l'heure, que je ne citerai pas, a été supprimée. La plupart des habitants du quartier, notamment les personnes âgées, ont réagi très vivement sur la suppression de cette boîte aux lettres. Il a fallu là aussi se battre pour que la boîte aux lettres soit remise à l'emplacement où elle était. Et je crois que c'est une demande très forte de la population qui vit autour de ce quartier et qui n'ont pas envie d'aller ailleurs pour cela.
Ok, alors on te remercie beaucoup Jean pour être venu après une courte sieste. On va te laisser retourner te reposer.
Je crois pas qu'il va aller se reposer parce qu'en fait il trépigne je pense d'aller voir parce qu'il y a des répétitions pendant qu'on est en train de faire l'émission. Et je pense qu'il trépigne plutôt d'aller voir un peu ce qui se passe.
Je trouve que la plaisanterie sur la sieste a assez duré, elle était beaucoup plus longue.
On n'a pas dit ton âge, Jean.
C'est vrai.
On n'a pas parlé de la relation jeune-vieux, tout ça, on n'a pas dit ton âge.
On a zappé le transgénérationnel.
La sieste, mais bon... Je suis content quand même d'avoir participé.
On est content que tu aies participé à cette émission. On se fait une courte pause et on se retrouve après.
Merci. Pas avec moi.
On n'est pas bien. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Salut, c'est le chasseur du dimanche, la pêche. 2, 3, 4.
Si j'avais le pouvoir d'achat,
j'achèterais plein d'objets sans fil.
J'achèterais un écran plat.
la vie serait plus facile. Ah, je t'achèterais un stylo, je t'achèterais un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat. J'achèterai des boîtes en plastique. Ah, j'achèterai une tente Quechua. Aujourd'hui on ne sait jamais. Je t'offrirai le TER, je t'emmènerai jusqu'à Beauvais. Peut-être même que je pourrais payer l'hospice de mémé. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat, je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierais moins d'impôts. Parce que les impôts c'est bien fait, j'achèterais un camembert président. Celui qui sent des pieds,
oui,
c'est le président. Il sent des pieds, je m'abonnerai à la piscine. Puis j'irai chez le podologue, me faire enlever une verrue. Je ferai des heures de Vélib, je m'achèterai un barbecue. Avec un allume-barbecue, je m'achèterai un rat de velay pour protéger mon barbecue.
Puis je placerai,
oui,
1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400 euros, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas, un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus. Jouer un peu plus, un peu plus. Jouer un peu plus. La 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 la.
Allez, salut, à dimanche prochain. Oh la 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 la